Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'expo de Madame Artoa qui nous a invités à prendre parole. Donc, je m'appelle Diko Hanoun. Je suis le secrétaire général d'une association qui combat l'esclavage et le racisme en Mauritanie. Alors, je vais vous parcourir les objectifs, les caractéristiques, les finalités de notre association. Et ensuite, je vous parlerai de la géographie mauritanienne et je parlerai aussi de la Mlahfa, au-delà des frontières, et comment est venue d'ailleurs l'origine même du voile. Voilà, je vais vous lire un petit exposé que j'ai préparé. Et puis, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous ne comprenez pas, si vous voulez avoir plus d'éclaircissements. Alors, donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Diko Hanoun. Je suis le secrétaire général de l'association des Haratins de Mauritanie en Europe et membre fondateur. L'association a été fondée le 13 juillet 2001 avec le président qui s'appelle Docteur Mohamed Yahya Oud Siré et un très proche à feu Thomas Sankara, qui s'appelle Yema Yogo, c'est son cousin. C'était tous des diplomates. Alors, les caractéristiques de notre association, c'est une association des droits de la personne à caractère non ethnique et non racial. C'est très important. Quand on vient d'un pays multi-ethnique, multilinguistique, il faut toujours préciser que c'est une association qui n'a pas à but ethnique ou racial, parce que ça peut prêter confusion. Nos objectifs, c'est l'abolition de l'esclavage en Mauritanie. Comme vous savez, la Mauritanie est le dernier pays à abolir cette ignominie. L'éradication du phénomène dans toutes ces manifestations, dénoncer l'esclavage et la complicité de l'État, parce que ce sont les esclavagistes qui ont l'État, c'est eux qui décident, c'est eux qui font ce qu'ils veulent, et ils sont propriétaires aussi des esclaves. Sensibiliser l'opinion européenne, africaine et internationale sur la question de l'esclavage. Parce que la question n'était pas connue. Les gens entendaient comme ça, de loin, ils pensaient que l'esclavage, c'est quelque chose de passé, c'est fini, c'est dans l'histoire. Mais en réalité, chez nous, on le vit aujourd'hui, comme dans l'Antiquité. Les gens sont fiers d'avoir des esclaves, posséder des hommes et des femmes. Il y a toutes les ignominies possibles et inimaginables. La finalité, c'est l'émancipation et la libération des Haratins. Les Haratins, c'est nous, c'est-à-dire les victimes de l'esclavage des Arabes et des Berbères. Les premiers hommes blancs à être en contact avec le continent noir, ce sont des Berbères. Et avant qu'ils ne soient eux aussi vaincus par les Arabes. Et finalement, les Arabes les ont imposés d'être des Arabes. C'est pour cela, dans tous les Maghrebs, que vous voyez, en réalité, c'est des Berbères. Ils sont en majorité des Berbères, ce ne sont pas des Arabes. Et ils ont leur propre dialectique, ils ont leur propre langue, mais les Arabes les ont imposés à parler l'arabe, à être des Arabes. Voilà, c'est bon. Ils les acceptent comme ça, mais c'est comme ça. Alors, bâtir un état de droit fondé sur l'égalité, la justice et le respect mutuel entre les trois communautés qui sont les Maures. Quand on dit les Maures, il y en a même qui disent maintenant « Maure noir, Maure blanc ». Mais en réalité, les Maures, c'est l'Arabe et les Berbères. Composer les deux, ça s'appelle Arabo-Berbère. Il y a ce qu'on appelle les Négro-Mauritaniens. Ce sont ces Africains qui sont les autochtones, qui sont les indigènes, qui sont là, qui sont les premiers habitants de ces pays, et qui sont un peu très discriminés. Et par la suite, c'est les Haratins. Les Haratins, c'est cette majorité qu'on a voulu arabiser de force parce qu'on a acculturé, qui sont d'origine de ces négro-africains-là, que les Arabes et les Berbères ont arraché des Africains pour les soumettre dans l'esclavage. Alors, nos productions, nous avons produit un premier journal qui s'appelle « Les cris du Haratani », c'est-à-dire « La voix du Haratani ». C'était un bulletin trimestriel que nous produisions. C'était pour attirer l'opinion internationale sur la question de l'esclavage. Parce qu'on en parle peu, parce que très peu savaient de quoi il s'agissait. Donc il fallait créer quelque chose pour attirer l'attention. Et en 2012, le président de notre association, le docteur Ahmed Yahya Oul-Siré, a soutenu une thèse qui a été édictée en livre qui s'appelle « L'abolition de l'esclavage en Mauritanie et les difficultés de son application ». Cette thèse a été soutenue en 2006 à l'Université Paris II avec mention très honorable. Et nous avons une deuxième publication dans un deuxième livre qui s'appelle « La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme » en 2014, qui c'est disponible dans toutes les librairies, hein, par Internet. Vous tapez notre association, vous allez voir, elle est très visitée. Et beaucoup de chercheurs font référence à notre site. Et ensuite, nous avons un site qu'on a créé depuis en 2005 qui s'appelle www.haratin.com et un blog que moi-même que j'ai créé qui s'appelle le blog Au secours des Haratin, SOS Esclaves. Vous voyez, tout tourne autour de la question de l'esclavage pour attirer l'attention, parce que ces Haratins-là, c'est quand même la majorité, hein, quelles que soient les compositions des différentes ethnies. Les victimes de l'esclavage sont majoritaires. Donc, vous voyez, c'est une minorité qui domine en réalité une majorité. Alors, c'est quoi l'esclavage en Mauritanie? Pour moi, il n'y a pas un esclavage meilleur qu'un autre. Parce que souvent, on entend des petites phrases qui disent « Oui, vous savez, l'esclavage des musulmans est meilleur que l'esclavage des blancs, l'esclavage des catholiques est meilleur que l'esclavage de ceci. » Mais en réalité, il n'y a pas un esclavage meilleur qu'un autre. Le but ultime reste le même, chosifier, humilier et exclure les victimes. Chez les Maures, écoutez bien, chez les Maures, aujourd'hui, là où nous sommes, l'esclave est un bien meuble. On peut le vendre, le prêter, le tuer. Et oui, on peut le tuer, parce que s'il commence à se rebeller, il devient en danger. Il peut inciter les autres ou influencer les autres à se libérer. Donc, ils font quoi? Ils le tuent, pour en faire un exemple, pour que les autres aient peur. Il n'a pas droit de repos, sauf le jour de sa mort. Ça, c'est l'esclavage chez le Maure, là où nous parlons. Et c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. L'esclavage, maintenant, c'est les négro-africains entre noirs. Il y a l'esclavage chez les blancs, qui est sur les noirs, mais aussi il y a l'esclavage entre les noirs. Il y a des noirs qui se considèrent comme supérieurs à d'autres, qui ont leurs esclaves, et qui se croient avoir le droit de vie sur ces esclaves, malheureusement. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Alors, il ne peut pas être chef de village, ni imam, c'est-à-dire il est impropre. Il n'est même pas propriétaire de la terre qu'il cultive, sauf si le village est constitué uniquement des esclaves ou des descendants d'esclaves qui sont partis, qui sont rebellés, qui sont partis s'installer quelque part, pour se séparer de leur maître, ils ont créé leur propre espace de terre cultivable. Alors, le problème de l'esclavage, c'est les Noirs, c'est les Négro-Africains, et que les victimes ont honte de dénoncer leur bourreau. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette honte ou cette peur. La réalité est que les victimes ont la trouille de tout perdre. Par exemple, si jamais les victimes Négro-Africaines s'engagent à suivre les Haratins qui sont un peu, on va dire, qui sont dans la logique des rébellions constantes contre l'esclavage et la domination des Arabes et des Berbères, c'est les Négro-Africains. Entre les Noirs, les victimes noires ont un peu honte, des fois ils cachent, mais en réalité, il y a autre chose aussi, parce qu'elles ont peur de tout perdre. Souvent, ce sont les maîtres qui sont les propriétaires des terres. Dès que l'esclave se rebelle, on va tout de suite lui prendre son lopin de terre pour l'affaiblir, pour l'affamer et pour l'obliger à revenir dans son état d'esclave. Ensuite, le plus souvent, l'esclave négro-africain préfère se résigner que la voie de confrontation. La société négro-mauritanienne est extrêmement hiérarchisée. Il y a des castes, les gens se ressemblent, mais en réalité, au fond, il y a beaucoup de différences. On ne se mélange même pas. C'est ce qu'ils appellent des castes. Il y a des castes nobles, il y a des castes des esclaves, il y a des castes de forgerons, des griots, de tout ce que vous voulez. Et tout ce monde-là ne se mélange pas. Et c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, ça crée des conflits actuellement. Si vous consultez un peu sur la question de l'esclavage, si vous regardez au Mali, on tue des gens. En Mauritanie, on arrache des gens de leurs terres. Au Sénégal, c'est un peu bouillonnant. Donc, c'est la route de toute l'Afrique de l'Ouest, ou particulièrement dans des pays qui sont traversés par l'islam, qui est confronté à ces problèmes. Alors, on peut toujours crier non au racisme et à l'esclavage, mais rien ne se passera tant que les intellectuels noirs du pays ne prennent pas les choses en main. Il y a un autre problème qui se pose. La plupart des intellectuels noirs sont issus des familles féodales. Les familles féodales, ce sont ceux qui se croient supérieurs aux autres et qui sont souvent complices avec les familles arabes et berbères qui dirigent le pays et qui sont tous pour que l'esclavage reste et continue. Alors, là, je vais vous parler un peu de la localisation de la Mauritanie. La Mauritanie a des frontières avec les pays suivants. À l'est, le Mali. À l'ouest, le Maroc. Au nord, l'Algérie. Et au sud, le Sénégal. C'est un pays qui fait trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Le pays est peuplé par des Arabes, les Haratim, qui sont les victimes de l'esclavage des Arabes et des Berbères, les Berbères, les Poulards, les Soninkés, les Wolof et les Bambara. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans les médias officiels, dans même la constitution mauritanienne, on vous dira que la Mauritanie, il n'y a que les Arabes, et les Arabes sont majoritaires, et un peu de Poula, de Sioniké, de Wolof. La grosse majorité, là, on l'a oublié, on l'a ignoré, c'est-à-dire les Harabim qui constituent rien que cette communauté, elle seule constitue 50% de la population. Toutes les autres ethnies réunies, Arabes, Berbères, Poulards, Soninké, Wolof réunis, les Haratim constituent 50% de la population. Mais malheureusement, ils ne sont pas reconnus. Ils sont ignorés. Et personne ne veut parler d'eux. Et encore, il y a une autre petite minorité qui est complètement mise dans la touche, ce sont les Bambara. Personne n'en parle. Personne ne veut en parler. Parce que les Bambara, on va dire, beaucoup de Haratim sont aussi d'origine Bambara. Bien sûr que les Haratim, c'est le mélange de tous ces Africains noirs qui ont été arrachés par des razzias, par des vols, par des tout ce que vous voulez, qui sont acculturés aujourd'hui, qu'on appelle les Haratim, qui parlent carrément les Hassaniya. Alors, la langue parlée est Hassaniya, non l'arabe, parce que souvent on nous dit que la Mauritanie est un pays arabe. Mais en réalité, on ne parle pas l'arabe. Pour parler arabe, il faut aller à l'école étudier l'arabe, pour parler et comprendre. Je pense que si on était arabe, sincèrement, on allait comprendre l'arabe automatiquement, sans aller à l'école, ni obligé d'apprendre l'arabe. Mais bon, c'est un complexe qui est là, qui est créé par l'élite mauritanienne. Et le peuple de 4,5 millions d'habitants seulement. Et c'est un pays qui a 1 300 000 km², je crois, qui fait, je crois, que deux fois ou trois fois la France. C'est un pays vaste, mais par contre, très désertique. Seul le sud de la Mauritanie, qui est habité le plus souvent par des Noirs, est un peu humide, qui touche un peu la frontière sénégalaise et un peu la frontière malienne, Mali, qui est à l'est. Alors, la culture mauritanienne, de par sa position géographique, est un mélange de cultures arabes, berbères et noires subsahariennes. L'origine maintenant de la melhfa. Alors, je pense que beaucoup seront surpris. Même moi, j'étais surpris parce que souvent, quand on est invité à exposer, on va quand même un peu faire un peu de recherche. Mais j'ai trouvé un ouvrage vraiment important pour moi, parce que même moi, je ne le savais pas, qui est édité par une Italienne qui s'appelle Giuseppina Musarelli. Elle nous dit tout simplement les voiles et héritage de l'antiquité païenne récupérés par le christianisme et bien entendu suivis par toutes les autres religions. L'islam est la dernière confession, je crois, à être propagée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle nous enseigne que le voile est un héritage de l'antiquité païenne récupéré par le christianisme et les autres religions. À l'époque, il est porté essentiellement pour distinguer les femmes mariées des célibataires et des prostituées. C'est pour cela que c'est les musulmans. Maintenant, j'ai compris pourquoi, quand vous voulez les ôter leur voile, ça devient un peu la guerre. Parce qu'il y a cette, voilà, ce secret qui était là, bien gardé, moi je ne le connaissais pas. En réalité, c'était pour distinguer les femmes mariées ou les femmes sérieuses des femmes non mariées, célibataires et des prostituées. En Grèce, la femme le porte aussi pour des raisons de pudeur et de modestie. Tandis qu'à Rome, il est associé religieusement aux vestales, c'est-à-dire c'est leur vestimentaire, comme la Mauritanie. Alors, là, si vous regardez l'écran derrière, je suis désolé, vous allez voir, là, c'est la page, c'est le logo de notre association qui est là, l'association des Kharatin de Mauritanie en Europe, qui lutte contre l'esclavage arabo-berbère. Et vous allez voir que dans les logos, on a pratiquement tous les pays qui est là. À gauche, vous avez des chaînes coupées. Et puis vous avez un bonhomme qui suit un troupeau de dromadaires, parce que souvent nous sommes des bergers. Et au milieu, vous avez des oasis, c'est des palmeraies. Et à droite, vous avez une femme vêtue d'une mlehfa, c'est une hartania souvent. C'est comme ça qu'on prépare ce que vous voyez là, on l'appelle le gurbet, c'est un gourdin si vous voulez. Avec ce qu'elle est en train de travailler, on peut travailler le lait avec, mais aussi on peut mettre de l'eau et ça rafraîchit l'eau, si vous voulez, dans le désert. Ensuite, on a ici une dame qui s'appelle Mboudia Mintba, c'est la, on va dire, elle fait partie des premières femme qu'on a donné la parole et qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Elle est maîtrisarde en alimentation et nutrition en 1990. Elle est trilingue, arabe, français et anglais. Donc, c'est une hartania. Elle est très épanouie. Là, on a cette grande dame qui s'appelle Mariam Mint-Cheikh. C'est une militante abolitionniste qui est revêtue d'une très belle mlehfa. Et cette image a été prise en prison parce qu'elle avait protesté contre l'asservissement des femmes et le régime mauritanien l'a emprisonnée. Donc il y a un reportage qui est passé, qui l'a pris en prison et qui a pris cette photo. Donc ensuite, nous avons cette grande dame qui s'appelle, une féministe aussi, qui s'appelle Aminatou Mint El Mokhtar. Elle est présidente d'une association qui s'appelle l'Association des femmes et chefs de famille. Elle est très active. Et je vous montre ça, cette image. C'est une image d'une victime de l'esclavage, souvent les femmes sont très, très, très touchés, les femmes et les enfants sont très touchés par le phénomène de l'esclavage parce que, voilà, c'est le plus souvent, les femmes sont à la merci des prédateurs esclavagistes parce que quand elles ont des enfants, elles ne peuvent pas s'enfuir et laisser leur progéniture et souvent, on a beaucoup plus affaire à des femmes asservies que d'hommes actuellement. Donc, elle a été libérée. Hein. Alors là, on a un groupe de jeunes, c'est des jeunes Hartania. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas vraiment la vie aisée. Hein. C'est des populations complètement exclues, démunies. D'ailleurs, l'État fait tout pour que ces populations-là soient dépendantes. Et c'est des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées, qui sont souvent livrées à elles-mêmes. Elles travaillent très, très, très dur. Alors là, vous voyez un groupe de femmes. Et ce qui est quand même remarquable chez nous en Mauritanie, la mleḥfa est notre tenue vestimentaire au quotidien. Il n'y a pas d'âge habituellement. Toutes les âges portent la mleḥfa. Donc, ça fait partie de notre culture, de notre mode de vestimentaire. Et là, je vous prie cette image parce que c'est des femmes qui travaillent et qui sont couvertes de la mleḥfa. C'est-à-dire, la mleḥfa n'est pas, comme beaucoup de gens nous disent, mais est-ce que c'est pas encombrant de porter cette chose-là? Non, non, nous, nos femmes, quand elles portent la mleḥfa, à la fois, elles sont bien couvertes. Elles sont à l'abri des regards sexistes et tout ce que vous voulez, mais aussi ça ne les empêche pas de travailler. Donc la preuve, elle est là. Alors là, ça, c'est des femmes complètement épanouies. Ce sont des mauresques. Souvent, elles ont des esclaves chez elles. Bon, elles sont très bien placées dans l'administration mauritanienne. C'est des ministres, c'est des directrices. C'est pas. Voilà. Il y a deux mondes, quoi. Il y a deux mondes de femmes. Il y a des femmes qui sont très épanouies et il y a des femmes qui servent justement ces maîtresses qui sont là, qui sont très respectées et dans l'administration, elles sont très bien placées. Et ça, c'est un groupe de femmes dans un quartier que j'ai trouvé l'image parce que c'est des femmes qui sont quand même engagées, qui combattent l'esclavage, mais j'ai trouvé l'image aussi un peu très, très à la mode parce que ça montre très bien comment elles sont vêtues. Et ça montre très bien que la mleḥfa, ce n'est pas quelque chose que nous sommes allés chercher ailleurs. Non, nous l'avons toujours, cette mleḥfa. Et vous voyez bien, notre mleḥfa n'est pas semblable à cet habillement aujourd'hui que nous voyons, ici en Occident ou ailleurs, où on ne voit que les yeux d'une femme. Moi, la première fois de voir ça, j'ai vu une boule noire qui arrivait. Je ne comprenais pas, parce que pour nous, la femme, elle se couvre très bien, mais elle n'est pas quand même au point d'être complètement couverte, quoi. Alors,